prochain lundi.
Charles a dit en direct du lycée Lebrun à Coutances.
Si Charles a dit, soyez tranquille, c'est vérifié. Le 2 et 3 février, de 10 à 16 heures.
Sur 87.7 et sur zonedonde.org.
Tatia Hao et bienvenue dans ce nouveau numéro de Balade en Chine, une émission partageant des informations sur la culture chinoise. Cette émission vous sera présentée par les élèves de l'option chinois au lycée Lebrun. Je me présente, je suis Amandine, une élève en terminale. Et pour commencer, montons ensemble dans le train de la connaissance, le Chinois Express, pour un voyage au cœur de la langue chinoise. Les bases vous seront enseignées afin que vous puissiez survivre lors de votre périple avec Héloïse, Lola, Clémentine, Nina, Zélie et Lizzie.
Bonjour, bienvenue dans notre Chinois Express. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à saluer et vous présenter en chinois.
Moi, Héloïse et Lola, nous allons commencer par la première partie, les salutations.
Pour dire bonjour, il y a deux manières. Ni hao, qui est plus formel, et allo, qui est plus courant.
Pour demander comment ça va, on utilise la particule interrogative ma derrière ni hao, ce qui donne ni hao ma. Pour répondre à cette question, on vous propose trois réponses.
Premièrement, pour répondre ça va bien, on dit bo hen hao.
Deuxièmement, pour répondre ça va comme si comme ça, on dit wo mama ho ho.
Dernièrement, pour répondre ça ne va pas, on dit wo bu hao. Pour éviter de reposer la question, on utilise ni ne qui signifie et toi. Pour remercier quelqu'un, on dit xie xie.
Pour dire au revoir, il y a deux manières de le dire. Il y a zaijian qui est plus poli et bye bye qui est plus courant ou détendu.
On en a fini avec la première partie. On vous laisse avec Lizzie et Zélie pour les présentations.
Pour cette deuxième partie, nous allons apprendre à se présenter.
Tout d'abord, il faut savoir dire son prénom. Comment tu t'appelles, c'est dit Ni Jiao Shen Mo.
Pour répondre à cette question, on peut dire Wo Jiao, qui se traduit par Je m'appelle.
Il peut aussi être utile de dire où l'on habite. Où est-ce que tu habites, se dit Ni Tutsai Nao.
Et pour répondre, on dit Wo Tutsai Coutances.
Pour être plus large, on peut aussi demander la nationalité. Tu es de quelle nationalité, se dit Ni Shenagujen.
Pour répondre, je suis de nationalité française ou chinoise. On dit respectivement Wushu Faguojun ou Wushu Chongguojun.
Nina et Clémentine vont illustrer tout ce qu'on vient d'apprendre dans un petit dialogue à deux.
Ni hao, ni hao, ni hao ma.
Wu ren hao xie xie ni ne.
Wu ren hao, ni jiao shen ma.
Wu jiao Clémentine ni ne.
Wu jiao Nina, ni tutsai nor.
Wu juzai Sainte-Cécile ni ne.
Wu tutsai Coutances. Ni shina guoshen.
Wushu Faguojun ni ne.
Wushu Faguojun. Bye bye. Alors, avez-vous tout compris? C'est tout pour aujourd'hui. C'était avec Héloïse, Lola, Nina, Clémentine, Lizzie et Zélie dans l'émission Chinois Express. Bye bye!
Merci les filles pour ce cours enrichissant. Pour se faire de nouveaux amis en Chine, quoi de mieux que d'aller découvrir les fêtes chinoises? Un retour vers le passé?
Ah ok.
Les fêtes chinoises vont pas tarder, mais à présent...
Merci les filles pour ce cours enrichissant. Donc, après ce voyage au cœur des fêtes chinoises, pensez à mettre vos baguettes dans vos bagages pour la suite. Nous plongeons dans l'univers de la cuisine chinoise grâce à Elune, Clémentine, Ambre, Elisa et Louise. À présent, place à la confection de recettes iconiques de la cuisine chinoise, j'ai nommé la soupe wonton et les gâteaux de lune.
La soupe wonton est un plat traditionnel chinois datant du XVIIe siècle durant la dynastie Qing. Les wontons sont des ravioles faites d'une fine pâte garnie d'ingrédients variés, comme des champignons, du porc ou d'autres légumes verts. Ils étaient servis à l'époque en soupe aux riches familles de nobles et de marchands. La soupe wonton s'est popularisée durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à devenir un des plats les plus populaires de la culture chinoise. Cette soupe a des saveurs profondes avec une petite touche de soja qui apporte une salinité agréable. L'ail et l'oignon, quant à eux, ajoutent une pointe piquante et enivrante, comme l'odeur d'un marché asiatique. Le tout cuit dans un bouillon léger, avec des légumes croquants pour finir. Un vrai mélange équilibré et savoureux.
Les wontons possèdent de nombreuses façons selon les régions de Chine. Aujourd'hui, on vous propose celle de Beijing. Pour les wontons, il vous faudra à peu près 30 feuilles de pâte à wonton que vous pouvez acheter ou faire maison. Et pour la farce, il vous faudra environ 300 g de porc haché, 2 tiges d'oignon vert émincé, 1 cuillère à café de gingembre moulu, 1 cuillère à soupe de soja light, 1 cuillère à café de vin shaoxing, 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre blanc et 3 cuillères à soupe de bouillon de poulet. Pour la farce, mélangez tous les ingrédients sauf la viande, laissez mariner 10 minutes, puis ajoutez la viande et remuez constamment. La viande doit absorber totalement le liquide jusqu'à devenir une pâte collante. Pour réaliser les wontons, vous devez humidifier votre pâte du bout des doigts. Placez une petite quantité de garniture, et maintenant vient l'étape redoutée du pliage, mais c'est assez simple en réalité. Dans votre paume de main où vous avez mis la garniture, vous n'avez plus qu'à plier votre pâte en deux pour former un rectangle, et presser et puis pincer pour sceller les bords. On conseille de cuire les wontons pendant que votre bouillon chauffe. Dans une casserole, portez une grande quantité d'eau à ébullition et déposez les wontons à l'intérieur doucement. Remuez avec une cuillère pour pas qu'ils ne collent et n'hésitez pas à faire plusieurs de fournées de wontons s'il le faut. Au bout de 6 à 7 minutes, les wontons devraient remonter à la surface. Quand c'est le cas, laissez-les cuire encore 1 minute 30 et enfin, si vous le voulez, vous pouvez ajouter le bok choy pendant 30 secondes. Vos wontons sont prêts. La soupe wonton n'est pas une soupe sans soumis. Vous aurez besoin de 2 litres d'eau, 1 os de poulet, 3 jeunes oignons, 3 gousses d'ail écrasées, 3 tranches de gingembre et 1 oignon. Pour préparer le bouillon, faites griller l'os dans un four à 190 degrés pendant 5 minutes. Puis, portez de l'eau à ébullition avec l'os rôti. Videz l'eau, rincez l'os et remettez-le dans de l'eau propre à feu doux juste en dessous de l'ébullition. Laissez mijoter 1h30 et n'oubliez pas d'écumer régulièrement. Vous pouvez ajouter tous les autres ingrédients et faites-les mijoter 40 minutes supplémentaires. Filtrez et votre bouillon est prêt.
Il ne vous reste plus qu'à assembler le tout. Pour cela, dans un bol, ajoutez du poivre blanc, du sel et de l'huile de sésame. Puis versez votre bouillon dedans. Vous pouvez maintenant ajouter vos wontons avec le bok choy, votre chou de Chine. Et selon vos goûts personnels, vous pouvez garnir, décorer votre soupe wonton avec des oignons verts, de l'huile pimentée ou vos ingrédients préférés.
Place au deuxième plat traditionnel chinois, le gâteau de lune, communément appelé Weiping, en forme de lune pleine. Sur le dessus de ceci, au milieu, on retrouve des sinogrammes comme Shangmen, qui signifie porte prospère. D'autres sinogrammes peuvent être inscrits. Ils sont soit auspicieux, soit ils informent seulement du goût. Les Weiping peuvent être sucrés comme salés en fonction de la garniture. Ces petits gâteaux traditionnels ont une enveloppe externe aussi bien fine que tendre qui fond en bouche. J'aime garnir les miens au tarot, car l'intérieur est d'une douceur naturelle et la texture est super crémeuse. Les versions traditionnelles sont à base de pâte de crème de lotus, de jaune d'œuf et de noix ou haricots rouges. Mais aujourd'hui, de nouvelles versions existent, incluant la crème ou le chocolat. C'est parce que des millions de parfums sont disponibles qu'il est impossible de définir une odeur spécifique. Je vous conseille vivement de les manger à température ambiante avec un bon thé chaud. On retrouve vraiment le mood de l'automne dans cette recette.
Il est souvent consommé pendant la fête du mi-automne, c'est le 15e jour du 8e mois lunaire. Ce petit gâteau est également lié à une anecdote historique. Au 14e siècle, lors de la révolution des Chinois Han contre la dynastie mongole Yuan, les gâteaux de lune étaient utilisés comme messagers. C'est grâce à cela que l'avènement des Ming a été donné. À l'intérieur de ces pâtisseries que seuls les Han consommaient, se cachaient des messages. Imaginez un peu les gâteaux de la fortune qu'on retrouve de temps en temps dans les restaurants asiatiques, mais en version gâteau de lune. D'ailleurs, les gâteaux de la fortune ne sont pas du tout chinois, mais c'est pour vous aider à voir le truc.
Pour faire des légumes, 8 g. Pour la pâte, 60 g de sirop de maïs, 1 quart de cuillère à café d'eau d'alcaline. C'est simplement 5 g de bicarbonate alimentaire mélangé à 20 g d'eau. Ne vous inquiétez pas, malgré le nom compliqué, c'est très facile à réaliser. Ensuite, il vous faudra 24 g d'huile végétale, 100 g de farine de blé. Pour la garniture, il vous faudra 220 g de pâte de lotus, ou taro ou haricots rouges selon vos préférences. Un œuf salé qui est facultatif si vous voulez plus de gourmand. Pour le lustrage, il vous faudra un jaune d'œuf à badigeonner pour avoir des gâteaux bien dorés. Passons maintenant à la partie fun, la pâtisserie. Mélangez délicatement le sirop et l'eau alcaline et l'huile végétale dans un bol. Tamisez la farine et ajoutez aux autres ingrédients, puis mélangez. Enveloppez la pâte dans du film alimentaire, puis mettre au frigo pendant 30 minutes. Divisez la pâte à lotus en parts égales. Attention, votre pâte doit être bien épaisse. Si ce n'est pas le cas, chauffez-la à la casserole jusqu'à ce qu'elle ressemble à de la pâte à modeler. Formez des boules. Si vous prenez l'œuf salé qui est facultatif, vous le pressez le jaune d'œuf sur une boule de pâte de lotus et vous l'enveloppez de façon homogène. Une fois que tout est prêt, il ne reste que l'assemblage.
Divisez la pâte en parts égales et étalez entre deux films alimentaires. Enlevez du film du dessus et ensuite ajoutez la garniture. Repliez la pâte et retirez les excédents. Roulez la pâte garnie pour faire une boule et farinez. Plongez les pistons, moule à gâteau, dans la farine, enlevez l'excédent, puis pressez sur la pâte dans une plaque de four. Pour finir, cuire à 175 degrés pendant 5 minutes, la surface doit durcir, puis badigeonner de jaune d'œuf afin de lustrer et cuire encore 10 minutes. Quand on les sort du four, les gâteaux doivent être dorés. Pour terminer, les laisser refroidir à température ambiante. Ils peuvent se conserver 3 à 7 jours.
Savourez ces deux recettes les jours de pluie, dans un pyjama tout doux, car rien n'est plus réconfortant que la soupe wonton et les yuebin. C'était Elune, Elisa, Loïse, Ambre et Clémentine. Bon appétit et siessier.
Après s'être bien rempli le ventre, pourquoi pas faire une balade digestive cap sur l'empire du milieu? Mais avant cela, voyons ce que les Coutancés pensent de la Chine. Lors d'une panne d'électricité au lycée Lebrun, les élèves de seconde en ont profité pour réaliser un micro-trottoir avec 4 questions posées aux élèves et aux habitants de Coutances.
Que pensez-vous de la Chine?
De la Chine? Ok. La Chine, eh ben, ce que j'en pense, c'est que c'est un pays assez étonnant. Où en même temps, il y a quand même pas mal de super choses qui sont faites, mais ils ont un régime qui est quand même assez discutable, on va dire. C'est quand même un pays qui est dans le top du podium mondial sur pas mal de domaines. Donc on est obligé de les prendre en compte au niveau des enjeux économiques, politicaux, internationaux. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur la Chine? Forcément, ils ont mis au monde Jackie Chan, hyper fan de Jackie Chan, moi. Voilà, c'est un de mes héros. Donc voilà ce que je peux dire sur la Chine, c'est très...
C'est un très grand pays, hein, avec beaucoup d'habitants. Hein. Il n'y a pas grand-chose à côté d'eux. Ouais.
C'est un pays que je n'aimerais pas vivre du tout.
Très grande histoire, très grande culture.
Pour moi, la Chine, c'est tout de suite associé à la muraille de Chine.
Moi, je trouve qu'il y a des beaux paysages là-bas, et avec les pandas et tout, c'est beau. Et la cuisine aussi, ça a l'air bon.
C'est bien et c'est le futur.
Ouais, c'est le futur et c'est un pays en développement.
Bonjour, moi, je pense que la Chine, c'est important parce que sans la Chine, on ne vivrait pas. Elle nous aide dans beaucoup de domaines et je pense qu'elle est très importante dans le monde.
Alors que je pense que c'est un pays qui est millénaire, même plurimillénaire, qui a une grande histoire, une ancienne histoire. En fait, c'était un pays fermé qui vivait sur lui-même et depuis, c'est un pays qui s'ouvre, qui a beaucoup souffert, mais aujourd'hui qui devient la première puissance mondiale, que ce soit économique, militaire. C'est un pays qui vit dans le futur un peu. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Chine, mais en Chine, ils sont déjà en 2050. Tout est électrique, tout est. Et il y a des robots partout. Vraiment, ils vivent dans le futur un peu. Et je trouve que c'est une bonne revanche sur ce qui leur est arrivé sur leur guerre de l'opium. On les a quand même forcés à consommer de l'opium et de force. On leur a fait la guerre pour ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un pays qui s'en est bien relevé. Première puissance mondiale économique. Donc, je souhaite à tous les pays de devenir comme la Chine.
À présent, préparez-vous un thé, installez-vous confortablement pour écouter les histoires de César et Hugo. Ces deux élèves ont eu la chance de vivre l'échange proposé par le lycée Lebrun en partenariat avec Taiyuan, une ville localisée à Taïwan.
Tatia Hao, en octobre 2024, nous avons eu la chance de prendre la direction de Taïwan pour un voyage qui nous aura marqué et dont on se souviendra toute notre vie. Dès notre arrivée, le climat chaud et humide m'a vraiment abattu. Perso, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me faire à ce climat, c'était vraiment très étouffant.
C'est vrai, la météo était très chaude. Même en automne et en short, t-shirt, on était couverts de sueur. Imaginez si on était parti l'été. Mais en vrai, ce qui nous a fait du bien quand on était arrivé, c'était les sources thermales. On a pu se détendre après l'avion et on a pu se baigner dans des bains de différentes températures.
En vrai, ouais, c'était cool. Mais j'étais tellement fatigué que j'ai même pas spécialement profité de la première journée. Et j'étais bien content de rentrer chez mon correspondant. D'ailleurs, faut vraiment qu'on en parle. La taille de leur maison, c'était immense. En plus, ils étaient super accueillants. On a eu plein de cadeaux. On avait même du mal à fermer notre valise en rentrant. Et ils étaient hyper gentils, que ce soit les correspondants, leur famille ou même les gens dans la rue.
Carrément. Toutes les sorties qu'on a pu faire avec eux, c'était vraiment les meilleurs moments. Ils nous ont emmenés dans les rues de Taipei pour voir la tour la plus haute du pays, les marchés de nuit, les centres commerciaux. Même les cours avec eux, c'était bien.
Et tu te rappelles de la visite du temple Confucius à côté de l'école? On avait pu s'essayer aux tenues traditionnelles. de grandes toges avec des couvre-chefs. On était trop stylés. On avait même croisé des mariés, et ils étaient super beaux dans leurs habits traditionnels rouges. Et ils nous ont même laissé prendre une photo avec eux. Ils sont tous gentils, je vous l'ai déjà dit.
Ouais, on était vraiment trop beaux gosses en habits traditionnels. Et sinon, tu te rappelles de la nourriture ? On mangeait vraiment bien, c'était incroyable.
Ouais, enfin, surtout des nouilles au bœuf, hein. Mais c'était excellent, surtout qu'on a pu manger plein d'autres trucs à côté. Avec les nouilles, le riz, le bœuf, c'était vraiment trop bon. Et même les petits déjeuners étaient bons. Ça nous a un peu changé parce que c'était majoritairement du salé. On avait le droit à des sandwichs, des œufs durs, du lait et plein d'autres trucs.
Ouais, franchement, on a vraiment bien mangé là-bas. Mais sinon, tu te rappelles du ramassage des ordures ?
Mais t'es sérieux ? Je vais pas me rappeler de ça.
Mais si, tu avais pas entendu une sorte de musique de marchand de glace dans la rue ?
Si, et ?
Bah, c'était...
Ah ouais, je me disais aussi que c'était bizarre d'aller acheter une glace à 20h. Mais pour le coup, ça me rend nostalgique de me remémorer tout ça.
Ouais, ça me manque. Promets-moi qu'on y retournera.
Je peux rien te promettre, mais si on y retourne, on vous embarque, très chers auditeurs.
À présent, au retour à Coutances, où de nombreuses questions ont encore été posées aux élèves et aux habitants.
Est-ce que la Chine vous fait peur, termes politiques, économiques ?
Alors, je dirais plutôt que c'est les dirigeants chinois qui font peur, mais pas la Chine.
Si on venait à se battre, je crois qu'ils ne peuvent pas les avoir. Il faut mieux être de leur côté.
Moi, je pense qu'ils sont en train d'avancer sur nous et sur tout le monde, par rapport à tout ce qui est technologique et tout. D'après vous, pourquoi la Chine fait peur ?
C'est un pays qui est très peuplé, qui se modernise beaucoup, qui va très vite en fait. Et on a un peu peur parce qu'on est au début, on a l'impression que l'Europe, on était le continent le plus important du monde, mais aujourd'hui, c'est plus.
Ils font pas de bruit et ils sont partout, en Afrique. Donc, on s'inquiète un petit peu.
Est-ce que la Chine vous fait peur ?
Non, pas spécialement.
Politiquement, non, parce qu'il y a d'autres pays qui me font beaucoup plus peur que la Chine. Et sanitairement, bah oui, parce que bon, je vois beaucoup de reportages avec les appartements raviolis, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ou des viandes avariées, et franchement, oui, ça me fait peur. L'alimentation chinoise, ça me fait peur, oui.
Non, moi, je n'ai pas peur de la Chine. Et personne ne devrait en avoir peur, je pense.
Avez-vous envie de voyager en Chine ?
Ah, pourquoi pas, hein ? C'est vrai que si j'avais le temps et l'argent...
Oui, ouais, ah ouais, carrément. Vraiment. C'est super beau là-bas.
Bah, pourquoi pas, oui. Oui, oui, oui.
Personnellement, non. Parce que je suis pas... Enfin, j'aime pas voyager. Voilà.
J'y suis déjà allée.
Oh.
Qu'est-ce qui vous a marqué ?
La gentillesse des gens. Les paysages et les musées, magnifiques. Hein. La Grande Muraille de Chine, c'est magnifique.
Ouais, j'aimerais bien voyager en Chine, ça a l'air pas mal. C'est très grand et les gens ont l'air très gentils.
Non, j'ai pas envie d'y aller, non, pas du tout. Non, c'est pas un pays qui me tente. Pourquoi ? Parce que il y a trop de monde, c'est surpeuplé et non, j'ai pas envie. Déjà, quand c'est une grande ville, j'ai déjà un peu peur, alors quand c'est surpeuplé comme ça, c'est encore pire.
J'ai pas eu l'occasion, mais c'est un pays que j'aimerais beaucoup faire, justement. J'aimerais bien aller à Shenzhen, je sais pas si vous connaissez. C'est un peu la ville de l'électronique et vraiment, c'est un peu le futur. Je sais que les gens de notre génération en France, ils sont plutôt intéressés par la Corée du Sud ou le Japon, mais je trouve que la Chine, c'est au-dessus, personnellement. Et j'adore leur gastronomie, ils sont très gentils, ils sont accueillants, c'est un peuple souriant. Donc voilà, je conseille à tous les gens qui aimeraient aller en Chine de visiter la Chine.
Que pensez-vous de la cuisine chinoise ?
Oh, ça, c'est trop bon ! Les nems, les nouilles et tout. Là, ils ont une super cuisine. Les shiitake et tout, c'est leur petit plan sauce. Gros big up à la cuisine chinoise.
Ça peut être bon, mais pas tout.
Moi, j'ai déjà essayé. Je crois que c'est ma nourriture préférée.
Oui, j'aime bien les nouilles, voilà. Et les nems, mais je pense que c'est pas chinois, je pense que c'est juste asiatique. Ouais. Donc, c'est un peu un cliché, donc je sais pas.
Ah ça, oui, par contre, c'est très très bon.
Que pensez-vous de la cuisine chinoise ?
J'aime bien, non ?
Ouais, ça... Je connais surtout la cuisine...
Je ne peux pas manger de chien.
On connaît surtout la cuisine japonaise qu'on aime bien.
Chinoise, moins.
J'adore la cuisine chinoise. Moi, j'habitais à Paris avant et il y a énormément de restaurants chinois. Et pour moi, c'est dans le top 3 des meilleures nourritures au monde. La nourriture tunisienne, parce que je suis tunisien. La nourriture italienne, parce qu'on est tous d'accord, les pizzas, c'est magnifique. Mais la nourriture chinoise, c'est top 3, vraiment.
C'est délicieux, moi, j'aime beaucoup.
Moi, j'ai déjà goûté 2-3 plats et c'était bon. Donc j'aimerais bien aller goûter ça en Chine. Ça a l'air bon.
Alors oui, j'en ai déjà mangé. Bon, ben, c'est comme en France, hein, on a nos plats, eux, ils ont leurs plats. C'est parfois atypique. Moi, je suis un peu réticente parce que des fois, on ne sait pas trop ce qu'on va manger. Mais sinon, bon, ce que j'ai goûté, moi, j'aime que le cuit et pas le cru. Donc bon, ce que j'ai mangé, j'ai choisi ce que je voulais manger et bon, ça m'a bien plu quand même.
Alors en France, on a nos restaurants chinois, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment représentatif de ce qui se fait vraiment sur place. Là, je me pose vraiment la question.
Après ce micro-trottoir, de nombreuses réponses peuvent étonner certaines personnes. C'est pour cela que César et Hugo vont revenir sur leur expérience et donner leur avis par rapport à ce qui a pu être dit.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous à Taïwan, on a vraiment adoré ce qu'on a vu, tout ça. Mais par contre, niveau nourriture, alors il n'y avait absolument pas d'appartement ravioli nulle part. Hein. Tout le monde était bien payé, tout le monde était dans des bonnes conditions, l'hygiène était parfaitement respectée. Et pareil, le chien, c'est un préjugé. Personne ne mange du chien en Chine, à Taïwan. C'est totalement faux.
Et pour sinon, c'était pas vraiment surpeuplé. On se sentait pas oppressé dans les rues. Il n'y avait pas tant de gens que ça. Enfin, c'est comme en France, dans les villes. De toute façon, il y aura du monde. Peu importe où on est.
Merci les garçons pour ces réponses. Alors, pour se faire de nouveaux amis en Chine, quoi de mieux que d'aller découvrir les fêtes chinoises ? Un retour vers le passé s'impose, accompagné de Garance, Milly, Blandine et Luan. Vous allez partir ensemble à l'exploration des fêtes chinoises dans les rues illuminées de lanternes rouges. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour vers le passé. Ici Garance,
Milly,
Blandine
et Luan.
Et aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte des fêtes chinoises.
Imaginez des rues illuminées de lanternes rouges, des familles réunies autour de tables garnies de mets délicieux, des dragons dansant au rythme des tambours et des histoires millénaires qui se transmettent de génération en génération.
Les fêtes chinoises sont bien plus que des célébrations. Ce sont des moments où la culture, l'histoire et la spiritualité se mêlent pour créer une atmosphère unique.
Que vous soyez passionné de culture asiatique, voyageur dans l'âme ou simplement curieux, installez-vous confortablement et laissez-nous vous guider à travers ces traditions fascinantes.
Commençons par la fête la plus importante et la plus spectaculaire, Chunxie, le nouvel an chinois, aussi appelé fête du printemps. En 2026, il a lieu le 17 février et marque le début de l'année du cheval. Mais pourquoi cette fête est-elle si spéciale ? Nous présenterons les traditions et coutumes qui l'entourent, mais avant cela, parlons de ses origines et de sa signification.
Le nouvel an chinois est basé sur le calendrier lunaire, utilisé en Chine depuis plus de 4000 ans. Contrairement au 1er janvier du calendrier grégorien, sa date varie chaque année entre fin janvier et mi-février. C'est un moment où les Chinois célèbrent le renouveau, la prospérité et la chance. Selon la légende, un monstre nommé Nian terrorisait les villages chaque année à cette période. Pour l'éloigner, les habitants utilisaient des pétards, des lanternes rouges et des couleurs vives, des traditions qui perdurent aujourd'hui.
Pendant 15 jours, la Chine s'illumine de rouge, couleur porte-bonheur. Les familles se réunissent pour un repas somptueux, souvent composé de raviolis, symbole de richesse, de poissons pour l'abondance et de niangao, des gâteaux de riz glutineux. Les enfants reçoivent des enveloppes rouges, des hongpao, contenant de l'argent pour chasser les mauvais esprits. Et bien sûr, impossible d'oublier les danses du lion et du dragon, accompagnées de tambours et de pétards qui animent les rues.
Saviez-vous que le nettoyage de la maison avant le nouvel an est une tradition essentielle ? On balaye la poussière pour chasser la malchance et faire place à la bonne fortune. Mais attention, il est interdit de balayer le premier jour de l'année pour ne pas risquer de balayer le bonheur.
Pour 2026, l'année du cheval de feu incarne l'indépendance d'esprit, la vivacité et l'audace. Le cheval, septième animal du zodiaque chinois, est un symbole d'élan, de liberté, de détermination et de mouvement. Alors, prêt à fêter le nouvel an chinois ?
Deux semaines après le nouvel an, place à la fête des lanternes, Yuan Xiaoqie, qui marque la fin des célébrations. En 2026, elle a lieu le 3 mars. Imaginez une nuit étoilée, illuminée par des milliers de lanternes colorées, flottant comme des étoiles sur Terre.
La fête des lanternes remonte à la dynastie Han il y a plus de 2000 ans. À l'origine, elle était liée à des rituels bouddhistes, mais elle est aujourd'hui célébrée pour son côté festif et poétique. C'est aussi l'occasion de célébrer le retour du printemps et de faire des vœux pour l'année à venir.
Les lanternes, souvent en papier rouge ou décorées de motifs complexes, sont accrochées dans les rues ou lâchées dans le ciel. Sur certaines, on écrit des devinettes ou des vœux. Les familles se promènent pour admirer les créations et déguster des yuan xiao, des boules de riz gluant fourrées, symboles de réunion et d'harmonie.
Le cinquième jour du cinquième mois lunaire, soit le 19 juin en 2026, la Chine s'embrasera pour Duan Wuxie, la fête des bateaux dragons. Une célébration haute en couleurs, où sport, gastronomie et légendes se mêlent.
Cette fête commémore la mort du poète Chu Yuan, un ministre loyal de l'état de Chu, pendant la période des royaumes combattants, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Accusé de trahison, il se suicida en se jetant dans une rivière. Les villageois, pour le préserver, sortirent en bateau et jetèrent des zongzi, boulettes de riz, dans l'eau, pour nourrir les poissons et éviter qu'ils ne dévorent son corps. Aujourd'hui, cette fête célèbre la loyauté, le courage et l'esprit d'équipe.
Les courses de bateaux dragons sont le clou du spectacle. Des équipes de rameurs synchronisées, au rythme des tambours, s'affrontent sur les rivières. Les bateaux des coureurs de tête de dragon peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de long. Sur les berges, les spectateurs encouragent les équipes et dégustent les songxi, des pyramides de riz glutineux enveloppées dans des feuilles de bambou, souvent fourrées à la viande ou aux cacahuètes ou aux dattes. Une tradition culinaire qui se décline en centaines de recettes selon les régions.
Le septième jour du septième mois lunaire, soit le 19 août en 2026, la Chine célèbre Yiqi, la Saint-Valentin chinoise. Une fête romantique et poétique, inspirée d'une légende d'amour éternelle entre deux étoiles.
Qixi, aussi appelée la fête des amoureux, trouve ses racines dans une légende vieille de plus de 2000 ans. Elle raconte l'histoire de Niu Lang, un modeste bouvier, et Junyu, une fée tisserande et fille de l'empereur de Jade. Tombés amoureux, ils se marièrent en secret. Mais l'empereur de Jade, furieux, sépara les amoureux en les plaçant de chaque côté de la Voie lactée. Une fois par an, le septième jour du septième mois, un pont de pie se forme pour leur permettre de se retrouver. Cette nuit-là, les Chinois célèbrent l'amour, la fidélité et la persévérance.
Le soir de Yiqi, les couples se promènent sous les étoiles, échangent des cadeaux et font vœux pour leur relation. Les jeunes filles, autrefois, priaient Qixi pour acquérir des talents en couture ou trouver un bon mari. Aujourd'hui, on offre des fleurs, des chocolats ou des bijoux et on admire la Voie lactée en espérant apercevoir les étoiles de Niu Lang et de Qixi. Dans certaines régions, on organise des concours de poésie ou de calligraphie pour célébrer cet amour légendaire. Une fête où le romantisme et la tradition se mêlent sous les étoiles.
Le 25 septembre 2026, la Chine célébrera la fête de la mi-automne, Zhongqiujie, aussi appelée fête de la lune. Une nuit où familles et amis se réunissent pour admirer la pleine lune, symbole d'harmonie et de plénitude.
Cette fête remonte à la dynastie Tang de 618 à 907 et est liée à la légende de Chang'e, la déesse de la lune. Selon la mythologie, Chang'e but l'élixir d'immortalité et s'envola vers la lune où elle vit depuis dans un palais de jade. Les Chinois célèbrent cette nuit pour honorer la récolte, la famille et la gratitude.
Le soir de la mi-automne, les familles se rassemblent pour partager des gâteaux de lune, yuebing, des pâtisseries rondes fourrées à la pâte de lotus, aux graines de sésame ou aux jaunes de salé. Leur forme ronde symbolise l'unité et la perfection. On allume des lanternes, on raconte des histoires et on admire la lune en dégustant des fruits comme les pastèques ou les pommes.
Nous voici au terme de ce voyage à travers les fêtes chinoises. De la magie du nouvel an à la fête des lanternes, en passant par les courses du bateau dragon et les gâteaux lune, chaque célébration est une invitation à découvrir une culture riche, profonde et généreuse.
Ces fêtes rappellent l'importance de la famille, du respect des ancêtres et de l'harmonie avec la nature. Des valeurs universelles qui résonnent bien au-delà des frontières chinoises.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à rester à l'écoute pour nos prochaines histoires où nous continuerons à explorer les trésors de la culture chinoise.
En attendant, nous vous souhaitons une excellente journée. C'était Garance,
Millie,
Blandine
et Louane.
Pour finir cette balade en beauté, un voyage à travers le temps s'impose entre tradition et modernité. La musique, peu importe son origine, nous touche. Nous sommes en recherche permanente de nouveaux genres, sonorités et de sujets. Alors Shinta Music est laisse-toi guider par l'équipe de Divine, Roman, Amandine et Tiffen.
Tatia Hao et bienvenue dans Shinta Music, le podcast qui vous emmène au cœur des sons, des rythmes et des inspirations venues de toute la Chine. Moi c'est Roman, accompagnée de
Amandine,
Divine
et Tiffen.
Et chaque semaine, on explore ensemble les trésors de la musique chinoise.
des instruments traditionnels millénaires aux artistes contemporains qui réinventent les codes. Le programme d'aujourd'hui est la découverte de nombreux artistes connus en Chine et qui transpercent le cœur de plusieurs personnes. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter, c'est parti pour un nouvel épisode de Chine ta musique.
Pour commencer, nous allons parler de Jay Chou. Pour ma part, j'ai choisi de vous parler de cet artiste qui est incontournable pour la scène musicale asiatique. Chanteur, auteur-compositeur, acteur et producteur taïwanais, Jay Chou s'est imposé comme l'une des figures majeures de la mandopop depuis le début des années 2000. Sa carrière démarre réellement lorsque sa maison de disques lui donne sa chance. En 2000, il sort son premier album intitulé Jay, qui devient immédiatement un succès. L'album dépasse les 250 000 ventes à Taïwan et propulse l'artiste sous les projecteurs dans toute l'Asie. Ce qui fait la particularité de Jay Chou, c'est sa capacité à mélanger des styles musicaux très différents. R&B, hip-hop, rap, rock ou encore musique classique, mais aussi des sonorités chinoises traditionnelles qui deviennent sa signature. Il crée ainsi un style unique, moderne et profondément marqué par la culture asiatique. Parmi ses nombreuses chansons à succès, l'une des plus célèbres reste King Roissy, une ballade poétique qui combine instruments traditionnels et arrangements modernes. Encore aujourd'hui, Jay Chou reste l'un des artistes les plus influents de sa génération. Chaque sortie musicale crée l'événement et son style continue d'inspirer de nombreux artistes à travers l'Asie.
Passons ensuite à Shan Yixun. Shan Yixun est une auteure-compositrice-interprète chinoise révélée par sa victoire dans Sing China 2020. Elle s'impose comme l'une des voix les plus touchantes de la nouvelle génération. Sa chanson la plus connue est Unbreakable Love qu'elle interprète lors de Sing. Son premier album se nomme Courage, porté par un style mêlant mandopop, C-pop et R&B. Elle marque la scène chinoise par son timbre de voix doux. Au début de 2025, elle comptait environ 1,28 million d'auditeurs mensuels sur Spotify. Elle a prêté sa voix dans le live action de La Petite Sirène. C'est cette musique-là que nous allons écouter.
Je vais maintenant vous parler de Wang Jutkai. Il chante ceci. Wang Jutkai est également connu sous le nom de Kerry Wang, c'est un acteur et chanteur chinois. Il a fait ses débuts en tant que leader au sein du groupe TFBoys à l'âge de 13 ans, avec des chorégraphies techniques et des titres dans un style bubblegum pop. C'est donc de la pop visant majoritairement les adolescents, avec des paroles positives qui explorent le jeune amour ou l'adolescence, avec Manual of Youth ou It's You que nous venons d'écouter. 3 ans plus tard, il commence sa carrière solo avec plusieurs titres comme Out to a Tree ou Ferris Wheel dans un style mandopop.
Je vais maintenant vous présenter Sky is Your God. Vous le connaissez forcément avec ça.
Oh, yeah. 我送阿嫂茶具和研磨下笔，直接给我四个字算大展宏图，大师亲手提笔字大展宏图。
Originaire de la ville de Huizhou dans le sud-est de la Chine, ce rappeur de 27 ans, Chen Shukai, compte actuellement 4,6 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, contre à peine 400 000 en début d'année. Il est maintenant l'artiste chinois le plus écouté. Son style est un mélange de Memphis rap, gangsta rap, musique rocken de Shaoshan, avec l'influence de la culture cantonaise. Il commence sa carrière en 2020 avec son premier titre « No That ». En septembre 2023, il sort son premier album intitulé « Shun Feng Shun Shui Shun Sai Shen ». En août 2024, il sort ça. Provenant de son deuxième album, Stacks from All Sides, qui est devenu viral sur TikTok.
Voilà, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. On espère que ce petit voyage à travers la scène musicale asiatique vous aura donné envie d'explorer encore plus ces artistes aux univers aussi riches que variés. On a commencé avec Jae-Shu, véritable légende de la mandopop, qui a marqué les années 2000 avec son style unique mêlant modernité et tradition chinoise. Puis on a découvert Shan Yixun, une voix nouvelle, douce et puissante à la fois, révélée par Sing China et déjà incontournable avec ses titres émotionnels. On a ensuite parlé de Wang Junkai, partie du succès fulgurant des TF Boys pour construire petit à petit sa propre identité artistique. Et enfin, on a terminé avec Chen Shukai, le phénomène du rap chinois actuel dont l'ascension fulgurante montre à quel point la scène musicale évolue vite.
Merci d'avoir écouté ce podcast, on espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez curieux, continuez d'explorer et surtout, bonne écoute!